consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Hôtel des Invalides. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Stéphane Padovani.
Allons, allez, messieurs, dames. People from everywhere and nowhere. N'hésitez pas. Allez, pressez-vous, pressez le pas. Voilà, l'hôtel des Invalides vous ouvre ses portes, ses couloirs, ses chambres, et même ses chiottes, pour une visite unique. Enfoncez le Lido, bye bye la tour Eiffel, le Louvre est d'un mortel ennui. Parce qu'ici, mieux qu'un cirque, messieurs, dames, le barnum de la vie et de la mort, et de ce qu'on fait entre les deux. Ici, tout ce dont vous avez rêvé, des légendes presque vraies, une réalité augmentée. Vous ramassez pas dans les gravats, faites gaffe, il y a des trous là. C'est le genre d'annonce tapageuse qu'on aurait dû entendre sur ce bout de trottoir du 6e arrondissement si la modernité bruyante n'en avait pas décidé autrement. L'hôtel des Invalides n'est plus. Une béance le remplace. Avantageusement même, ont persiflé certains. Par le vide ainsi créé, on voit l'arrière d'un immeuble où déjà des curieux se pressent aux fenêtres, tout éblouis par la vue nouvelle. Sur les côtés, des renforts de bois empêchent les immeubles mitoyens de verser dans le trou que les dernières pluies ont empli d'une eau boueuse. Une eau stagnante qui bientôt disparaîtra, bue par le ciment et ses armées de tiges métalliques. Bientôt une grue, bientôt le béton qui élève vers le ciel. Déjà un panneau annonce fièrement le ticket d'entrée pour un F1 et la terrasse du dernier étage. L'hôtel des Invalides a disparu. Et ce n'était même pas son nom, juste un surnom donné par les gens du quartier, même repris par d'autres qui ne l'ont jamais vu, jamais fréquenté, et qui pensent même qu'il n'a jamais existé. Vu que ça n'est pas sur Internet. Le ragot, la peur, les on-dit, qu'en dira-t-on ? Hôtel de passe et de passage pour des perdants, des poètes qui sont allés se faire maudire ailleurs, des acteurs sur le retour, et qui se sont perdus en route. Un aller simple dans la poche, des artistes de tout bois dont on fait les héros mal embouchés. Et puis, aussi des zèbres, des allumeurs de réverbères aligneurs de planètes, des marchands de sommeil éveillés, des enfumeurs de tournées en rond, un inventeur de génie, on lui doit l'eau chaude dans l'unique salle de bain. Et
il te tient pas sur ce trottoir, hein, pareil que le patron fait des trucs.
On pouvait y croiser sans les voir ceux qui rendent la vie lumineuse, messieurs dames. Godillot par devant et Manque sur le derrière. Les élimés des costumes, des robes victoriennes à trous de mythe, des cheveux en pagaille, ou tempête sous des crânes chauves d'un vent qui n'a jamais soufflé ailleurs. Et oui, on en a dit des choses sur cet hôtel. Souvent inventé d'ailleurs, mais qui parfois tombait juste. On ne dira jamais assez la force du hasard. Comme le rappelle je ne sais plus qui a dû passer un jour par là, sans doute. Toutefois, il n'y avait pas de chambre pour le hasard ici. Sous l'apparent désordre des croisées, des voûtes en plein cintre bien ordonnées, ça tenait la route. Celle des hobos, des marcheurs de la route 66, des step by step du Caucase, ou du Caus, de par chez nous. 27 années d'existence, pour autant de déprises avant le boom, autorisation de démolir, avancée de la modernité dans sa splendeur. Costard agitant sa carte de crédit, un plan de carrière roulé sous le bras. 27 années, comme autant d'éclats de vie. 27, comme le club du même nom. Mais qui irait raconter ce qui se passe dans un hôtel ? Qui serait assez fou ou bien trop ennuyeux pour recenser les gens qui sont venus là pendant toutes ces années ? Exercice de style, à la queneau. Et pourtant il le faut. alors que le dernier camion transporteur de gravats précieux galère pour prendre la rue dans le bon sens, sous le regard des badauds, des curieux. J'agite ma cloche, que j'ai troquée contre ma lanterne aux aurores, vu que j'ai passé la nuit dans le chantier. Pas intéressé, monsieur, l'histoire de l'hôtel? Non? Quoi, les flics? Bah partez pas, madame. Vous savez que Galuzzo a écrit là ses premiers poèmes. Hein, je vous apprends un truc. Vous ne lisez que Valeurs actuelles. Oh, je vous approuve. Même si je trouve le papier un peu glacé pour mes fesses. Et toi, ça te dirait? Mais bordel, je parle dans le vide. C'est le trop-plein, c'est ça. Trop-plein des yeux fermés, des bouches pleines, des quant à soi, que demain ce sera pareil. Hein? T'es qui, toi? Une étudiante? Pas en économie, j'espère. Que je te raconte. T'étais même pas né quand ça a fermé. L'hôtel des Invalides. Bizarrement, ça fait moderne comme nom. Le moderne se démode rapidement, c'est sa fonction, mais tu vois, en fait, d'invalidité, tous ceux qui ont vécu là, l'espace d'une nuit, d'une semaine ou plus, toutes ces gueules, hommes, femmes, c'était pas des invalides, juste le contraire. Comment dire, des béquilles, comme les contreforts en bois, là. Sans eux, tout se serait cassé la gueule. Regarde le monde comme il est, tu verras que j'ai raison. Tout ça, c'est une question d'œil. Mais pas comme tous ces cons hein, qui n'ont vu que la loose en grappe, des ratés, des sabayons de cafards, et la peur qu'on leur tende un miroir. Tu vois là, il y avait une porte. Ouais, une belle porte en bois, double battant avec des ferronneries, et un vitrail qui tenait avec du scotch. Pareil qu'un type a volé le heurtoir. De tout cela, il ne reste rien. Ou plutôt non, il reste tout. Mais disséminé. Des éclats racontés au hasard d'un livre de mémoire, d'une autobiographie, deux strophes dans une chanson à ellipse. On peut en retrouver des bouts hein, sur un tac délavé. Une confidence sur l'oreiller haletée pour un magazine People des années plus tard. Les gens ne font pas forcément le lien. Hein. Moi, si. Dis donc, t'as quel âge hein, pour être encore étudiante? Reste quelques légendes. T'as dû en entendre parler, quand même. La malle de Blaise Cendrars. Bah, bien sûr, oui. Certains disaient qu'il avait laissé dans la cave de l'hôtel une malle pleine d'écrits, de notes éparses, et puis surtout un roman presque achevé. Il l'avait confié au patron pour qu'il la mette en lieu sûr. Il avait des choses à faire. En fait, il y avait deux types qui en voulaient à sa galette, à moins qu'il les ait grugés au poker. Toujours est-il que la légende dit que la cave était régulièrement inondée du fait de la proximité de la Seine, et qu'à chaque fois la malle flottait. Je démentis pas. Mais pour accéder à la cave, il y avait une grille en fer, infranchissable, scellée dans la pierre. Alors les occupants, ils venaient au plus près, avec tout un tas de tiges en ferraille, ils tentaient de choper la malle. Pour l'ouvrir. Mais dès qu'ils y étaient presque, le niveau de l'eau se mettait à baisser et à chaque fois c'était la même musique. Et la malle s'en allait rejoindre sa position initiale, tout au fond. J'ai vu des types pleurer de rage derrière la grille, attendant la pluie comme un paysan dans son champ. Une fois même, Joseph Kessel et Léo Ferré en sont venus aux mains. T'assures, c'est moi qui les ai séparés. Même que Ferré, après ça, il s'est mis à chanter en fermant les yeux. C'était peut-être le cocard que Kessel lui avait mis. Bon, je crois surtout qu'en laissant un mince filet de lumière passer sous ses paupières, il espérait que la prose de Cendrars lui apparaisse. C'était ouvert à tous ceux qui voulaient entrer. C'était rare qu'on refuse du monde. Un couloir, la remise à linge, ça faisait lit occasionnel, fallait pas être exigeant. Pourtant, ceux qui sont passés là l'étaient, exigeants. Mais avec eux-mêmes, tu vois. Ferré a vécu ici, chambre 12. Il attendait la gloire. Il disait comme ça avec son petit air, quand il venait boire une fine dans ma loge au milieu de la nuit.
Une antichambre, ouais. Mais toujours coincé dans la chambre.
Il avait déjà écrit des chansons. Il comptait faire un album consacré à son Mars.
De la merde ! Criait-il dans les couloirs et balançait ses feuilles.
Il y avait une femme aussi, dans la chambre d'à côté.
Hein ?
Oui, bon, faut pas être grand duc pour comprendre que c'était moi le taulier. Dis cocotte, d'où tu le tiens ton accent ?
Ah, une américaine.
Oh, au fond, ça vaut peut-être mieux. Il y a plus de poésie dans les puits de pétrole du Texas que dans toutes les librairies de France en ce moment. Mais tu ris. Tu savais que les poètes de la Beat Generation étaient passés par là ? Bon, tous peut-être pas, mais certains oui. Burrow, par exemple. Sympa, le type. Sauf quand il vidait ma bouteille. Il m'avait dit qu'il avait fait tomber Hemingway une fois, mais je te jure. Ils se sont défiés au whisky de contrebande. Le genre de torboyau qu'on fait dans ton pays. Et Hemingway pensait bien gagner la partie, mais vers 2h du matin, ces deux-là ne voyaient plus rien et Hemingway a glissé. William se marrait en me racontant ça. Hemingway lui avait fait penser à un personnage de cartoon qui devient tout mou et qui s'allonge comme une feuille de papier sur le sol. Le lendemain, il se souvenait de rien. Il a refusé de reconnaître sa défaite. Et là, ils se sont brouillés. William, c'était pas tant l'alcool qu'il minait, que la cam. Moi, je fermais les yeux, hein, tu sais. Je tenais le livre des entrées, mais il n'était jamais à jour. Il y a des types pas très recommandables qui sont passés chez moi. Leurs noms n'apparaissent nulle part. Me balancer aux flics, ça, tu vois, non, je peux pas. Hein. Burrow a terminé le festin nu chez moi. Il m'en a lu des passages en anglais, c'était sa façon de payer son loyer. Et un matin, il n'était plus là. On m'a dit qu'il venait de partir pour Londres. Je suis monté faire la chambre, et là, surprise, tout était impeccable. Il avait même plié les draps sur la chaise. Et dans le tiroir, j'ai trouvé son arme, un Remington, avec lequel il jouait à tirer sur des bouteilles dans la cour. Après, il se mettait à pleurer, il me parlait de sa femme. Paraît qu'il l'a tué d'un coup de pistolet, en voulant faire comme Guillaume Tell. Je te livre tout ça en vrac, tu sais, hein, comme ça me vient. Mais au fait, ma crotte, c'est quoi ton blaze ?
Patricia.
On va pour Patricia. Il y a eu Grégory Corso aussi, et puis Ginsberg. Corso, il payait bien, il payait même pour les autres. Il trouvait que ça faisait chic et snob de venir dans mon hôtel So Francais. Et puis, il y avait ce jeune type qui voulait devenir écrivain, Yves Simon. Il avait pris une chambre, lui, il a 22, je me rappelle. Il traînait une guitare partout, ça le démangeait, on sentait bien qu'il hésitait entre littérature et musique. Du coup, il a fait les deux, il me semble. Un soir qu'il gratouillait comme ça dans le hall, Corso s'est assis à côté de lui. Alors, Yves Simon s'est levé, et là, comme une inspiration, il lui a dit... Monsieur Grégory Corso, qu'est-ce que la puissance ? Corso s'est marré et il a répondu un truc qu'Yves Simon a tout de suite noté dans son carnet. Ginsberg, alors lui, il invitait des hommes à partager ses nuits. Bon, il n'était pas très discret. C'est étrange tout de même de venir se perdre là alors que des hôtels bien mieux fréquentés se faisaient une joie d'accueillir des gens célèbres et fermaient les yeux sur leurs amours. Ben, moi, c'était le voisinage qui boglait et menaçait de porter plainte quand il entendait Ginsberg et son amant, il s'appelait Yann, je crois, en train de s'enfiler à grand bruit, bref. Fenêtre ouverte, en plein mois d'août, même qu'une fois Burrow a tiré avec son flingue sur la façade d'en face. L'été fut calme, hein, après ça. Quand il est parti, Ginsberg m'a offert la première version de Kaddish. Je l'ai épinglé derrière mon bureau, avec le reste. Des chansons, d'autres poèmes, des tableaux, des esquisses. J'avais embauché Émile, un pauvre vieux qui avait perdu un œil. Il était devenu un art par nécessité. « Je touche le maximum, vieillesse !» qui disait. Enfin, je veux dire, le minimum. Je lui offrais le couvert, du tabac, il me donnait un coup de main. Il avait bossé dans un hôtel de ce type dans les années 30, du temps du Paris qui puait. Soutine lui avait offert un dessin. Comme c'était trop humide chez lui, Émile l'avait accroché avec les autres derrière mon bureau. Où c'est tout ça? T'es bien curieuse, l'américaine. L'hôtel des Invalides était miteux. Des fenêtres qui fermaient mal, de l'eau chaude à volonté, du service des eaux, un chiotte par palier, bouché le plus souvent, et une salle de bain pour 19 chambres. Au rez-de-chaussée, une splendeur. Entièrement décoré par Bernard Buffet avant que ce naze se pince le nez et ne fréquente plus que des bourgeois. Mais interdiction de se laver dedans, hein, c'était lavabo pour tout le monde. Quant au chauffage, une vraie passoire thermique, mais au sens noble du terme. Ici, tout le monde réchauffait tout le monde. La femme qui se tenait dans la chambre à côté de Ferré avait été rayée de l'ordre des médecins, des histoires d'avortement clandestin, je crois. Elle avait échappé à la police, t'imagines ça? Car elle avait fait sauter le niard de la fille du commissaire. C'est du moins ce qu'on racontait. Il avait prévenu quelques heures avant qu'il vienne l'arrêter, et depuis qu'elle vivait là, elle sortait peu, elle mangeait d'un rien avec les pigeons. Mais elle avait une trousse bien pleine et le diagnostic précis. Elle soignait les bobos. C'était pas ça qui manquait, les bobos. T'as de quoi écrire un roman, ma fille, hein? Patricia, ouais. Tu fais de la musique, c'est bien. Tu m'enverras ton disque. Poste restante, parce que l'hôtel, on va en faire un immeuble aseptisé. Pour des résidents, tu vois, des résidents. Des ceux qui résident, qui viennent plus et qui partent jamais. Alors que moi, ce que je préférais, tu vois, c'était le passage. Les femmes furtives, les hommes pressés, ceux qui voyageaient sans leur ombre, les passantes qui avaient des soucis tout contenus dans une valise en carton bouilli, et d'autres qui gardaient leurs mains dans leurs poches sans fond. Et puis ceux qu'on remarquait de suite là, qui faisaient tout pour qu'on les voie, qui marchaient au centre de l'allée. Ceux-là étaient les plus à plaindre. Ils avaient tous le même air, le genre « j'ai l'habitude de descendre dans ce genre d'hôtel, c'est mon choix ». Mais chez moi, on ne descendait pas, on dévalait plutôt. Alors, j'étais la dernière pierre du dernier muret avant le grand saut, le ravin. Rue Gilles Coeur. Ça s'invente pas comme nom, ça. Et puis cette femme qui se faisait appeler Christine ou Christiane ou Henriette, tout ce que tu veux, suivant la marée, elle avait filé de chez elle après que son mari, il avait convoqué la Cabadora. Elle savait sans le savoir qu'ici, on ne posait pas de questions. Elle a vécu quelque temps dans la terreur que celle qui donne la mort ne la trouve. Elle avait pas un rond. À la fin de la première semaine, elle m'a proposé son corps pour payer la chambre. T'imagines quand une femme en arrive là? Alors, j'ai couru à Montparnasse, je lui ai acheté un billet de train, grande ligne, un billet vierge. Il n'y avait plus qu'à inscrire la destination. Quand je suis revenu, elle m'attendait dans le hall. Elle s'était coupée les cheveux. Je l'ai poussée dans un taxi. C'est les artistes qui t'intéressent. Mais ils n'ont pas le monopole de la frugalité. Chambre 26. Cette femme, une ancienne danseuse. Ça se voyait à son mollet. Paraît qu'elle l'avait pas mal agité sous le regard des Allemands, sa gambette. Carrière en vrac après ça. Quel gâchis. Belle femme. Les autres la surnommaient la Dame Blanche. On la voyait passer la nuit, elle dansait dans les couloirs. Petit rat, comme ça, qui avait sa place dans mon hôtel. Elle était toute de tulle, de mousseline, comme la purée, un jaune clair. Et dans ses pieds, des ballerines, les bien nommées. Une nuit, Miles Davis est passé avec sa trompinette. Gréco l'accompagnait. Il était un peu bourré, m'a dit qu'il cherchait l'âme noire de Paris, celle des années 20. Émile lui a répondu qu'il faudrait repasser parce que l'âme noire, elle bossait sur les chantiers. « Mon œil !» qu'il a répondu Miles. Émile s'est marré. Alors, la Dame Blanche est descendue. Elle ne vivait que la nuit. Son visage était couvert de poudre de riz et elle portait deux anneaux de bohémienne aux oreilles et s'est mise à danser comme ça, la danse des voiles noires. Miles a improvisé un air pour elle. Gréco a été là, assise dans un coin. Elle avait pas mal picolé aussi, c'était du temps des caves. Elle voyait bien que Miles était attiré par cette femme, ce papillon de nuit. Mais bon, elle a laissé faire. Et quand ils sont partis, j'ai lu dans son regard qu'elle savait que Miles allait la quitter pour rejoindre sa terre promise. L'Amérique. D'où tu viens, ma pomme? Je crois pas si bien dire, hein, d'accord. New York. Et t'es venu goûter le fruit défendu. Mais Paris n'est plus Paris. Ou alors il faut bien chercher, dans les recoins, sous la peinture. Mon hôtel, c'était un cirque. Montreur d'ours, cracheur de feu, freaks, comme on dit chez toi. Femme fatale, coupée en deux. Aujourd'hui, c'est la ville entière qui est un cirque. Un cirque passe. Non, pas de nostalgie. Hein. Les Vélib et la pizza à l'ortie ne font pas rêver. Moi, j'y repense. Il y a un autre de tes compatriotes qui est passé chez moi. Andy Warhol. Chambre 30. Sympa, lui aussi, elliptique, mystérieux, aussi avec ses lunettes noires. Il prenait des photos tout le temps, il s'était amusé à faire des sérigraphies du général de Gaulle. Comme Marilyn. Et la souple, hein, j'oublie le nom. L'imprimerie se trouvait pas loin, c'était la même qui a fait les affiches de 68. Il en collait partout. Il traînait avec lui un seau rempli de colle à tapisserie. Et c'était parti. Il demandait à quelqu'un, le premier qui passait, de les lacérer. Tchac, il prenait des photos. Il a dormi là, quelque temps. Des bagnoles de luxe venaient le chercher pour des défilés, des cocktails. C'est là, tiens, que j'ai vu Jean-Paul Gaultier pour la première fois. Passager bien timide dans une aventure qu'il dépassait. Il était jeune, il avait toujours un carton sous le bras. Comme toi. Tu me les montreras, tes dessins ? Quand il a vu la gueule de l'hôtel, il a souri. C'est étrange, mais il a toujours conservé ce sourire. Un soir, Warhol est revenu avec une femme. Quand elle a vu l'entrée et tous ces spécimens qui traînaient dans le couloir, elle s'est enfuie. Warhol a alors sorti son appareil, il l'a bombardé. Pellicule en quelques secondes. Juste pour cette femme affolée qui courait tant bien que mal sur le trottoir. Je la revois. Sur ses talons perchés, sa robe qu'elle relevait pour ne pas se ficher la gueule sur le bitume. Des taxis qui filaient à sa demande. Bon, je t'ennuie pas trop avec mes histoires. T'as vécu dans un hôtel comme celui-ci, hein, à New York. Le Chelsea Hotel alors, merde. Bien sûr. T'es artiste. Et ça marche pour toi ? Ah, bref, Lou Warhol avait installé un studio pour développer ses pellicules. Il emmerdait tout le monde parce qu'il squattait dans les chiottes du dernier étage, les seuls qui n'étaient jamais bouchés. Et il a épinglé les clichés dans le hall. Oh, c'était saisissant. Ces photos de dos rendaient la panique de la femme encore mieux qu'un gros plan d'Hitchcock dans Psychose. Tout un cinéma. Mais les meilleurs films sont ceux qui n'ont jamais été tournés. C'est ce que m'a dit Godard quand il est passé un matin. J'étais surpris. Hein. Un artiste qui se lève avec les ouvriers du bâtiment et les institutrices. Il avait toujours son espèce de gros cigare au bec, mettait de la cendre partout, et Mille le suivait avec une balayette. Il était en repérage pour un film, et moi j'avais accepté qu'il vienne visiter. Il a fait le tour du propriétaire, et quand il l'a vu, Warhol a dit « Tiens, voilà l'Helvet Underground ». Ce décor est trop cinématographique, qu'il a lancé à son assistant. Moi, j'étais vexé, mon hôtel n'est pas un décor, hein. Il ne l'a jamais été. Pas de pièce de théâtre ici, pas de répétition. Hein. Jamais de général non plus, hein. Que des premières. Pas de public non plus, si ce n'est celui qui peuplait les chambres et qui voyait passer le Godard dans les coursives, tel un capitaine inspectant la propreté du pont. J'étais plus trop sûr de vouloir que mon hôtel apparaisse dans un film. Hôtel de la plage, hôtel du Nord, Bunker Palace Hotel, ça suffisait bien. Godard avait pris une caméra avec lui, il a fait quelques plans, comme ça. Seule la cave avec la malle de Sandrars l'intéressait vraiment. Je ne les ai jamais vus, ces plans. Mais j'ai été soulagé quand il est parti. « Il a oublié son cheveu sur la langue ?» qu'a dit Émile en ramassant un poil de chat sur le parquet. « Je pourrais t'en raconter des histoires. » Tiens, ce prêtre défroqué qui continuait à faire la messe dans sa chambre. Il a failli mettre le feu avec ses encensoirs, ce con. Et le plasticien qui créait des œuvres éphémères à partir de trucs récupérés dans la rue et qu'il suspendait au plafond. Même que le plafond de la chambre s'est effondré une fois. Depuis, il est devenu député ou un truc dans ce genre. Pas sûr qu'il aimerait qu'on lui rappelle cette partie de sa vie. Et cette femme, tiens, prostituée sur le retour, qui se trimballait toujours dans son t-shirt Argentina 78. Pour emmerder le curé, elle avait décidé de créer une église rien qu'à elle. L'église maradonienne de Paris, elle appelait ça. Elle recrutait ses fidèles dans la rue. Le culte consistait à revoir les plus beaux buts de Maradona et à prier pour lui, ses dreams, ses addictions, la main de Dieu. Tous ces gens ont disparu. J'ai toujours refusé l'idée qu'ils soient morts et enterrés quelque part. Fosse commune. Quand on aura fini avec la musique, écris cette histoire, hein, je t'aiderai. Tu as vu ce soleil ? Bah non, il n'y en a pas. Ça me réconforte que tu sois là. Tu éclaires ma journée. Tu la réchauffes aussi. J'ai froid soudain. Comme si toutes ces voix étaient sur le point de s'éteindre. De tout ça, il ne reste rien. Même plus de poussière plaquée au sol par la flotte. Ça sent plus rien que l'humide. Mais pas l'humide comme on sentait dans mon hôtel. Non, cette odeur si particulière. Un client m'a dit une fois que si je changeais les moquettes, il ne reviendrait plus. C'est bien gentil de me remercier, mais c'est moi qui te dois beaucoup. Si, si, ton attention, ton écoute. On sent que ça te parle tout ça, que c'est pas fin. T'as vécu ça aussi? Ou quelque chose dans le genre? Tu sais de quoi je parle? La faim, la soif. La liberté a toujours un prix. Si on en connaissait le montant au départ, peut-être qu'on hésiterait. Non, tu connais cette chanson de Reggiani? Ma liberté, longtemps je t'ai cherché. Et Genet, Baudelaire, Rimbaud, je suis surpris, je m'attendais pas. Tu dois y aller à présent, bien sûr. Tout le monde doit y aller, un jour ou l'autre. Une place de concert, parce que tu joues ce soir. Voyons ça. Patti Smith, c'est donc ton vrai nom. Bien sûr que je viendrai, je vais pas rater ça. Je t'attendrai à la sortie des artistes si tu veux, si t'as encore un peu de temps. Je te montrerai ce qui reste de tout ceci, là. Ce que j'ai ramassé dans les poussières, ces scories. Et tu sais quoi? Tu pourras peut-être en faire une chanson.
April. She will, when streams are ripe and swelled with rain. May she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once knew has now.